Bonsoir à tous et bienvenue dans Handy Up, le podcast qui s'entretient avec des personnalités du monde du handicap pour aller plus loin sur ce sujet et casser les clichés. Pour ce deuxième épisode du podcast, nous avons le plaisir et le bonheur d'accueillir Elina Bézir et Swazik Lelièvre. Elles viennent aujourd'hui nous évoquer leur rapport à la fameuse résilience qu'il est bien souvent nécessaire d'user quand on est en situation de handicap. Nous aborderons avec elles le fait de savoir si la résilience et le monde du handicap sont étroitement liés ou bien s'il s'agit plutôt d'une vue de l'esprit sociétale. Par la suite, nous nous plongerons dans leur parcours de vie pour mieux les connaître et les comprendre, et comprendre ainsi donc comment la résilience peut agir sur elles et sur nous. Avant, dans une partie plus générale, de découvrir leurs vœux pour cette année 2023 qui vient de démarrer au moment où nous enregistrons ce podcast. Meilleurs vœux à vous, mesdames, et merci d'avoir accepté l'invitation.
Meilleurs vœux à vous aussi. Bonjour. Merci.
Je vous laisse vous présenter.
Alors moi, c'est Swazik Lelièvre. Je suis en situation de handicap depuis 2020.
Moi, c'est Elina. Je suis au lycée Les Bourdonnières depuis la seconde. Et je suis en seconde.
Très bien. Alors, pour cette première partie, pour introduire ce deuxième épisode du podcast, J'aimerais débuter en fait en vous demandant tout simplement de définir chacune votre tour le terme de résilience, je dirais entre guillemets, à votre sauce pour donner corps ensuite au restant du podcast et à cet épisode. Et pourquoi pas, si vous pouvez, à la suite de la définition, nous donner un moment marquant de votre vie où vous avez eu le sentiment d'utiliser cette résilience, un moment qui a forgé un peu vos esprits et qui vous reste en mémoire. En rapport avec le handicap ou pas d'ailleurs.
Pour moi, la résilience, c'est la capacité à accepter des épreuves de la vie et à vivre les difficultés que la vie peut nous imposer. Et moi, comme exemple de résilience, j'ai le regard des autres sur moi des fois à cause de mon handicap. Et ça, pour moi, c'est un bon exemple de résilience parce qu'il faut finir par accepter tous ces regards et finir par que ça me passe au-dessus, parce que sinon on ne peut plus vivre en fait. C'est pas possible.
Et moi, en fait, j'ai trouvé une phrase, je trouve qu'il veut dire beaucoup de choses, c'est « Il faut avoir connu la tristesse pour savourer le bonheur, le bruit pour apprécier le silence, et l'absence afin de profiter de la présence. » Pour moi, c'est ça la résilience, c'est surmonter une épreuve de la vie.
Très bien, merci. C'est très varié, très complet, c'est top. Alors, pour débuter, dans ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire collectif populaire du handicap, la vision que les personnes valides ou non ont de ce que c'est d'être en situation de handicap, les personnes handicapées, elles sont souvent associées à une idée de courage permanent, une force mentale qui dépasse un peu l'entendement. Dans quelle mesure est-ce que cette légende urbaine, cette vision, elle est pour vous réelle, et comment est-ce que ça existe ou non dans vos vies?
Pour ma part, je le ressens autour de moi à travers les attitudes que les gens peuvent me traduire, c'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai une sœur qui n'est pas en situation de handicap, qui est ma sœur jumelle, donc qui est un bon exemple, et on lui donne pas les mêmes regards qu'à moi. Mmh. Pas la même attitude, pas le même comportement envers elle qu'envers moi. Et c'est là où je vois qu'il y a une différence de traitement, et que je vois aussi qu'on me trouve courageuse parce qu'on peut me jeter aussi des regards de profond respect qu'on n'a pas envers elle en fait.
Ouais, Swazik.
Alors moi, le côté super-héroïne, je l'ai beaucoup à travers le regard de mes amis et de ma famille. Maintenant, la force mentale, de toute façon, là au quotidien, faut qu'on gère nos douleurs, il faut s'adapter à l'extérieur, s'adapter à tous les endroits où on est amené à vivre, en fait. Faire preuve d'anticipation. Il faut de l'énergie, beaucoup plus, parce qu'il faut le pousser, notre fauteuil, enfin, c'est pas simple. Et puis on est plus fatigable, plus fragile aussi. Et je pense que oui, on a une sacrée force mentale, et nos proches, enfin moi je sais que mes proches me le disent souvent, que je suis une guerrière. Et je pense qu'ils ont raison, en fait.
La force mentale, on l'a bien compris, elle existe, elle est très présente, elle se concrétise de plein de manières différentes que tu as pu un peu énumérer. Mais est-ce que c'est pas néanmoins complexe de se détacher de l'image de super-héroïne dont tu parlais et que j'évoquais en introduction aussi? C'est-à-dire que, on l'a bien compris, il y a plein d'enjeux auxquels on doit répondre, des enjeux qui sont différents et qui s'accumulent par rapport à d'autres personnes, mais malgré tout, les personnes en situation de handicap restent humaines et donc avec des difficultés aussi. Comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'on peut aussi avoir des moments de faiblesse et que nous ne sommes pas forcément des super-héros et des super-héroïnes.
Alors déjà, je suis maman de deux garçons de 11 et 14 ans. Et la super-héroïne, j'ai voulu l'être pour eux déjà, pour qu'ils aient un regard de fierté envers leur maman, qu'ils puissent se rendre compte que malgré les difficultés de la vie, on peut avancer. Mais par contre, moi j'ai appris aussi à travers mon handicap, à plus m'écouter, à plus faire attention à ce que mon corps m'envoie. Et j'ai des moments où, oui, je suis très fatiguée et j'ai pas d'autre choix que de me reposer. J'ai de la spasticité dans mes membres, c'est-à-dire que des mouvements que je contrôle pas forcément et qui sont accentués quand je suis fatiguée. Quand j'ai les petits bobos de la vie, quoi. Donc, faut faire attention à ça, ouais.
Comment est-ce que vous l'expliquez avec votre expérience dans le monde du handicap, ce regard-là? Pourquoi est-ce que cette vue de l'esprit, elle existe? Pourquoi est-ce que on associe le handicap au courage et à cette idée d'être fort, d'être guerrier, qui est un terme parfois juste, mais qui, dans le contexte qu'on connaît, est peut-être un peu disproportionné parfois, même si c'est un bon mot qui est un peu valise. Comment est-ce que vous l'expliquez? D'où ça vient, à votre avis?
Pour moi, chaque individu a une vision des choses différente. Et ça, pour moi, c'est aussi surtout une question d'éducation, en fait. Une question de si il a beaucoup d'expérience sur le sujet du handicap, une personne va par exemple réagir par la compassion. Et si la personne ne connaît pas le handicap, va plus tendance à avoir peur. En tout cas, c'est ce que moi j'ai pu constater dans ma vie, dans mon quotidien. Et c'est pour ça que je l'explique comme ça. C'est par l'éducation que vraiment tout se fait, en fait. C'est comme ça que après les gens ont une attitude plus ou moins positive envers le handicap.
Oui. Malgré tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, et malgré aussi les difficultés qu'on peut rencontrer quand on est en situation de handicap, les formes d'oppression de la société, les mauvais regards, les mauvais jugements, est-ce que malgré tout ces difficultés-là, vous considérez aujourd'hui qu'elles vous poussent à être des personnes dites résilientes par rapport à ce que vous avez dit en définissant le mot tout à l'heure?
Oui, moi je pense il faut accepter ces regards justement, parce que autrement ça nous briserait aussi psychologiquement, pardon. On a des regards de compassion, mais on a aussi des regards des fois de pitié, même de dégoût, faut le dire. Et là, par contre, faut apprendre à les gérer. Donc moi, ça y est, c'est passé tout ça. Je leur souris ou je les ignore. Et c'est beaucoup plus simple.
Si l'on revient à vos définitions qui avaient débuté cette première partie, est-ce que vous voyez un autre domaine de la vie ou alors d'autres expériences que vous avez pu mener qui n'ont pas forcément de rapport avec le handicap? Où on a besoin d'être résilient, est-ce qu'il y a des choses dans votre entourage ou ce genre de possibilités?
Face à la maladie,
Ouais.
on peut être amené à être résilient par rapport à un proche qu'on peut, voilà, qui peut être touché par un cancer, une maladie, par un décès aussi, par le deuil. Il faut apprendre, oui, à accepter ce que la vie nous apporte. C'est comme ça. Il y a la vie, il y a la mort. C'est pas toujours drôle, Mais je pense qu'il y a des belles choses à vivre et il faut aller de l'avant.
Pour
Elina?
moi, dans la vie de tous les jours aussi, la résilience est un bon outil. Ça permet aussi de bien se construire. Et voilà, pour moi, c'est vraiment dans toute la vie, tout le quotidien. Il n'y a pas vraiment d'exemple précis. Mais pour moi, c'est la résilience, c'est quelque chose d'utile et qui sauve aussi, qui permet aussi de s'en foutre un peu. Enfin, désolé du terme. De s'en foutre de ce qui peut être mauvais pour nous, les regards, par exemple, choses comme ça.
Il y a une question qui me vient à l'esprit, qui n'était pas nécessairement prévue dans mon conducteur pour être transparent. Est-ce que c'est l'accumulation de mauvais regards ou de difficultés qu'on rencontre qui fait qu'on finit par le négliger, comme tu l'as dit, Elina? Ou alors, est-ce que c'est vraiment, ça dépend de chacun et c'est selon qui on est, le parcours de vie, le caractère, ou alors c'est vraiment à force d'être confronté à quelque chose, on finit par modifier le regard.
Moi, je pense que c'est en rapport avec le caractère des personnes. On est tous différents face à l'handicap, face à l'acceptation, au regard des autres. Et il y a des jours où moi, je les accepte, ces regards, et ça m'est égal. Et il y a des jours où j'ai pas envie de les avoir, ces regards, hein, parce que je suis pas bien, parce que je suis avec mes enfants, que j'ai pas envie d'être regardé comme une bête de foire. Voilà, il y a des moments dans la vie où on n'accepte pas forcément, et c'est pas pour autant ne pas être résiliente.
Oui, c'est ça, être levé du pied gauche ou du pied droit en
Oui, c'est
situation
chez
de
tout le
handicap
monde.
ou pas, ça arrive et on réagit pas de la même manière le lundi ou le dimanche. C'est la même chose pour tous les êtres humains qui sont sur Terre. Faut le rappeler parce que parfois c'est utile. Personne n'est parfait, comme on dit. Voilà donc pour cette première partie de l'épisode spécial Résilience et Nouvelle Année de Handy Up. Dans un instant, nous allons nous plonger dans le parcours de vie de nos invités pour mieux les connaître et mieux connaître aussi leur rapport personnel donc avec cette fameuse résilience. De retour dans ce deuxième numéro de Handy Up avec Elina Bézir et Soizic Le Lièvre en ma compagnie, que nous allons donc désormais essayer de mieux connaître. Je vais commencer par Elina pour ses présentations rapides. Qui es-tu, Elina, pour que nos auditeurs mettent peut-être quelque chose de plus précis sur ta voix, entre guillemets.
Eh bien, moi je suis lycéenne, mais je suis aussi en situation de handicap et depuis la naissance. Et je le vis bien, mais c'est vrai que c'est aussi un quotidien qui fait changer aussi toute une organisation dans la famille, avec les amis aussi. Et voilà.
Soizic, qui es-tu? Question très très vaste.
Qui suis-je? Je suis une femme de 44 ans qui a eu un accident d'opération en mars 2020 et je suis paraplégique. Je suis mariée, j'ai deux enfants, deux garçons, Gaspard et Elliot, que je salue. Et voilà, moi j'accepte bien mon handicap, ça a été compliqué pour ma famille, pour mon entourage. Mais pour moi, ça a été très rapide, et je fais plein de choses dans ma vie qui font que je suis heureuse aujourd'hui.
Merci pour ces deux brefs portraits, mais qui sont très clairs et qui permettent, j'en suis sûr, à nos auditeurs donc de mieux vous connaître un petit peu maintenant. Soizic, que j'aimerais débuter en profondeur cette partie avec toi. Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, donc ta vie a basculé au printemps 2020. Tu le disais précédemment, tu as été opéré d'une hernie discale. Et tu as par la suite subi des complications et donc tu t'es réveillé paraplégique, ce qui a bien sûr drastiquement modifié ta vie. Durant cette période de bascule, tu as expliqué à l'hebdo de Sèvres-et-Maine que du fait de la situation sanitaire, puisqu'on était au printemps 2020, et le contexte d'explosion du Covid avec le fameux premier confinement, tu as été privé de tes enfants pendant 77 jours. Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit à ce moment-là? Et comment on fait pour garder, je dirais, le minimum d'optimisme nécessaire et conserver la possibilité de se projeter dans l'avenir alors que tout est bouché, à la fois personnellement et collectivement en plus.
Alors j'avoue que l'annonce de ma paraplégie, ça a été très compliqué à digérer parce que j'étais seule. J'avais ni mon mari, ni mes enfants, aucun membre de ma famille. Et l'absence de mes enfants, pour moi, ça a été très compliqué. J'ai beaucoup pleuré. Enfin, je pensais que j'allais pas réussir à survivre à l'absence de mes enfants. Et au bout de quelques jours, je me suis dit qu'il fallait que je sorte de là, que de toute façon, si je sortais pas de l'hôpital, je ne pouvais pas les voir, donc il fallait que je me donne à fond pour pouvoir sortir de l'hôpital. Et ça a été très long.
Oui, on l'imagine bien sûr, même si l'imaginer c'est une chose, le vivre en est une autre, bien entendu. Dans cette même interview, tu as également exprimé la nécessité pour toi, une fois sorti l'hôpital, de quitter également la ville de Pornic où tu vivais avant 2020, notamment par rapport à la nécessité de fuir les regards de compassion et de jugement dont on a un peu parlé dans la première partie de cet épisode. Comment on fait là encore pour rester forte face à cette forme d'oppression? Est-ce que tu as considéré à ce moment-là la résilience comme une alliée?
Alors justement, là, ce moment-là, pour moi, c'était une faiblesse parce que toutes les personnes de mon entourage m'avaient connu une maman hyperactive sur tous les fronts. Et le fait de me retrouver en fauteuil roulant, je voyais bien le regard des mamans, les mamans des copains de mes enfants, plein de compassion, de tristesse aussi. Tout le monde était désolé de ce qui nous arrivait. Et à un moment, moi, je supportais plus ces regards. Puis je voulais pas me justifier, je voulais pas raconter, j'avais pas envie de dire ce que j'avais vécu, et j'avais surtout envie que de vivre autre chose avec ma famille. Et ma maison n'était pas adaptée à l'handicap, donc il a fallu qu'on déménage, qu'on vende notre maison pour s'installer sur Clisson.
Tu avais pas de rapport avec l'handicap et le monde du handicap en général avant 2020, si je ne me trompe pas. Et quelle a été ta première réaction devant les regards des autres, justement? Est-ce que tu as été surprise par ces regards-là? Et je veux dire, est-ce que ça a changé ton regard, sans trop de répétition, par rapport à ce que tu pouvais penser du handicap avant, et est-ce que tu vois un peu ton toi du passé, entre guillemets, différente par rapport à la vision du handicap?
Alors, j'avoue que l'handicap, avant, j'avais pas ce regard. Je pensais pas que c'était si compliqué au quotidien de vivre en société avec un handicap physique, parce que moi je suis en fauteuil roulant. Et le fauteuil roulant, les trottoirs, les stationnements, les accès dans les grandes surfaces, par exemple, dans les rayons, de pas avoir accès à tout, de toujours demander de l'aide, de... En fait, j'étais à 100 000 lieues d'imaginer que tout ça. Et par contre, j'avoue qu'autour de moi, j'ai énormément de bienveillance. Les gens sont gentils, ils me proposent beaucoup d'aide. Souvent, ils me proposent de me pousser quand ils voient que je galère sur une côte. Ils me proposent de rentrer dans un magasin quand c'est pas accessible. Ils me portent. Enfin, je suis entouré de gens super sympas et je voulais vraiment le souligner quand même. Même des inconnus qui aident comme ça juste par bienveillance.
Tu as un entourage fort
Oui.
et des personnes même autres qui t'aident et qui sont là avec beaucoup de positivité et de dynamisme.
Oui.
Tu as dit que tu étais à 100 000 lieues d'imaginer la difficulté de ce que c'était d'être en situation de handicap dans la société. Qu'est-ce que ça traduit pour toi de la place du handicap en France?
Bah, la place du handicap, Ben justement, il est grand temps de laisser de la place justement aux personnes qui sont en situation d'handicap parce qu'on en manque, parce que on n'a pas forcément accès au logement. Enfin, je dis on, je pense à des amis qui vivent ça, qui n'ont pas accès au logement adapté, qui n'ont pas accès au transport, qui sont en isolement social, qui ne peuvent pas avoir accès au sport, aux piscines. Il y a plein de piscines qui sont pas
Sont pas
adaptées pour
adaptés.
nous.
On n'en parle pas assez, je suis
Non.
d'accord. Parce que je raconte un petit peu ma vie, c'est mon instant de gloire. J'ai fait pas mal de natation étant plus jeune, et c'est vrai que c'est très 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 compliqué de pouvoir trouver des piscines, qu'elles soient municipales ou privées, qui acceptent les handicaps, au-delà même de pouvoir les accueillir et de mettre une structuration en place pour ça. Et petit clin d'œil, donc, puisqu'on parle de natation et de sport, au premier épisode avec Florian Bélier, responsable du handisport à la page. Je rebondis sur une de tes réponses précédentes, Swazik. Tu as dit dans cette même interview que ta situation de handicap, une fois qu'elle a été, que son annonce a été digérée, même si c'est délicat de parler comme ça,
Si, si,
ça
c'est ça.
t'a rendu meilleur. Comment est-ce que ça s'est manifesté?
Alors, ça m'a rendu meilleur parce qu'en fait, le fait de côtoyer d'autres personnes en situation d'handicap, enfin, avec des pathologies beaucoup plus lourdes que moi, de voir des jeunes qui sont cassés, en gros, par un accident de moto, un accident de voiture, un accident de plongeon. Ils ont 20 ans, 18 ans, enfin. Et là, je mesure la chance que j'ai, moi, que ce soit arrivé qu'à 41 ans, que j'ai pu connaître plein de choses super avant, de voyages, enfin, ma vie de valide, ma vie d'avant. Et de me dire qu'en fait, à côté d'autres, ça va, en fait. Je vais bien, il faut que j'aille de l'avant.
La recette pour aller de l'avant, c'était de relativiser les difficultés, si on comprend
Oui,
bien.
c'est tout à fait ça.
Et d'un point de vue contraire, par rapport à ces aspects positifs, toi qui es en situation de handicap depuis peu à l'échelle de ta vie, quel est ou quels sont, tu peux en donner plusieurs, c'est même mieux, les contraintes sociales qui t'ont le plus surprise précisément, même si tu l'as un peu dit précédemment, et qu'est-ce qui te chagrine le plus dans ton quotidien de personne en situation de handicap?
Alors, ce qui me chagrine le plus, c'est le manque d'accessibilité, parce qu'il y a plein d'endroits où je peux pas aller avec mes enfants, où je me retrouve des fois à la porte, et ça, c'est difficile à vivre quand on est en famille, qu'il faut anticiper tous les déplacements, anticiper les activités, les accès, s'assurer qu'il y a des toilettes adaptées, s'assurer qu'on ait un stationnement assez proche de l'endroit où on va pour pas galérer. Le coût exorbitant du matériel handicap aussi. Tout ce qui touche à l'handicap, ça coûte horriblement cher. Et on a un système qui est quand même gravissime. La MDPH, pour ne pas la nommer, c'est des mois, voire un an d'attente pour un dossier, pour une aide technique. J'ai un exemple concret. Moi, j'ai acheté des roues pour mon fauteuil, donc ce qui
Oui.
me permet de me déplacer en avril, et j'ai
La base.
toujours pas de réponse de la MDPH.
Scandale. Mais scandale, malheureusement, à propos duquel les personnes en situation de handicap qui nous écoutent, j'allais dire, c'est très malheureux hein, comme constat, mais devant ce que tu viens de dire là, la plupart d'entre elles ne seront pas surprises. C'est-à-dire que
Tout à fait.
c'est une norme scandaleuse qui finalement est laissée couler comme ça. Pour de différentes raisons, mais effectivement, c'est quelque chose d'inadmissible, mais qui malheureusement perdure pour plein d'exemples différents. Et on voit que ça te pénalise, toi, dans ta vie pour te déplacer. C'est quand même
Oui.
une base et un droit pour tout être humain. Normalement,
Oui,
la
tout
liberté de
à fait.
circulation, on le rappelle. Passons maintenant à Elina, qui s'impatiente sans doute. Tu es de ton côté en situation de handicap depuis ta naissance, tu es lycéenne comme tu l'as dit. Il me semble que pour toi, Elina, la période du collège que tu viens de terminer depuis septembre dernier a été relativement complexe pour toi. En quoi est-ce que ces difficultés que tu vas nous présenter en partie t'ont permis de développer ta résilience et là aussi sans doute de te rendre meilleur?
Disons que c'est dur de se sentir défini uniquement par un fauteuil, par un handicap et non par la personne que je suis. Et en fait, c'est ça qui a été le plus compliqué dans ma scolarité au collège. Et c'est ce qui a fait que ça a développé ma résilience parce que j'ai appris à me dire que, bah oui, en fait, il existe tout plein de points de vue sur le handicap, que ce soit positif ou négatif de la part de plein de gens. Et du coup, je me suis dit, mais il faut vivre ta vie sans se préoccuper de ça, en fait. Faut pas que ça impacte ta scolarité ou que ça a un effet négatif sur toi, parce que sinon, tu vis plus du tout. C'est très difficile.
Bien sûr. Par rapport au regard des autres que tu as évoqué là, est-ce que tu as l'impression d'une amélioration lente mais certaine avec le temps qui passe, avec les années qui évoluent, les mentalités qui bougent un peu? Et en arrivant au lycée, est-ce que tu vois un changement?
Tout à fait, moi je pense que le fait qu'on parle de plus en plus du handicap et qu'on essaie de justement d'ouvrir la parole aux gens concernés, ça permet d'avoir un meilleur regard sur le handicap et de montrer aussi que c'est pas un sujet tabou et qu'on peut en parler. Et du coup, ça favorise ça, en effet.
Est-ce que pour toi, commencer cette sensibilisation-là, dès, l'école, le plus tôt possible, c'est une des clés?
C'est ça, c'est ça. Pour moi, tout est une question d'éducation, comme je le disais tout à l'heure. Et ça devrait commencer dès le plus jeune âge et par des gens qui sont concernés, qui vivent le handicap au quotidien et qui peuvent témoigner de leur expérience et parler à des gens pour ouvrir un peu les esprits des gens.
Ouvrir les esprits, et de toute façon, on le répète, il y a souvent cette distinction entre la malveillance et la maladresse, mais dans la plupart des cas, c'est vrai, c'est-à-dire que les regards oppressants qu'on a décrits, qu'on a critiqués à juste titre, ils ne sont pas le fruit d'une discrimination de haine volontaire, c'est-à-dire ils sont le fruit d'une méconnaissance,
C'est
et
ça.
du fait que l'inclusion n'est pas réelle dans tous les secteurs de la société, elle est plus que partielle pour être gentil en dressant le tableau.
C'est ça. Et
Vas-y,
je
Elena, je
peux
t'en
me
prie.
permettre, merci. Des regards de peur aussi,
Oui.
j'en ai vu dans les yeux des gens sur moi, parce que on voyait qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils étaient dans une certaine innocence sur le sujet du handicap. Et c'est vrai que ça met mal à l'aise et puis ça attriste, je trouve, parce que c'est pas, enfin, moi ça me semble pas normal. Et voilà, je comptais le dire
Oui.
ici aussi parce que je trouve ça important d'en parler.
Mais bien sûr, le message est passé avec clarté. Et il y a quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir. C'est Sozi qui en a parlé aussi pas mal. Et toi également, au début, quand je t'ai posé la question par rapport à ton expérience de collège, c'est pas un joli terme, mais c'est toi qui l'avais employé au départ. C'est un peu une sorte de je m'en foutisme. C'est-à-dire que on décide de négliger le fait que. On nous regarde mal pour aller droit au but. Mais quand on est enfant, quand on est jeune, au mieux, c'est pas forcément facile d'être dans cette optique-là. Est-ce que tu aurais un moment ou quelque chose, un événement qui t'aurait fait basculer dans cette idée-là, de te dire, bon, bah finalement.
Moi, c'est dans toute ma vie, j'ai toujours. Enfin, je pense que c'est mes parents aussi qui m'ont beaucoup appris à relativiser, à me dire ça, faut pas que tu t'en préoccupes en fait, faut que tu vives ta vie comme tu l'entends, que tu te sentes bien toi-même dans ce que tu es, et voilà.
Très bien. Pour conclure cette deuxième partie avec toi, Elina, je vais avoir la même interrogation que j'ai eue avec Swazik tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'agace le plus aujourd'hui en termes de freins sociaux qui peuvent être en lien avec ton handicap? Qu'est-ce qui, dans ton quotidien, est le plus difficile à assumer, à vivre?
Beaucoup de personnes, par méconnaissance, me parlent beaucoup avec des mots simples, comme si je pouvais pas comprendre. On m'infantilise aussi beaucoup, alors que j'ai pas forcément de problème mental, de déficience mentale. Et c'est vrai que c'est vexant. Enfin, je trouve que du coup, dans la société, c'est dur de se sentir inclus avec ce genre de comportement.
Avec un exemple un peu célèbre dans la communauté du handicap, dans cette forme d'infantilisation, c'est les personnes qui parlent à une personne en fauteuil et qui ont le réflexe de s'accroupir
C'est ça.
alors que elles peuvent avoir le même âge, la même condition sociale, occuper le même poste de travail. Et c'est au-delà de ce geste-là. C'est pas quelque chose qu'on fait dans la vie de tous les jours, enfin, c'est pas quelque chose qui se passe entre valides, et ça témoigne du fait de finalement les personnes ne savent pas tellement comment agir, et ça se ressent comme ça, comme tu as pu le dire. C'est la fin de cette deuxième partie du deuxième numéro de Handy Up, pardon, en 2023. Et justement, dans un instant, nous allons demander à nos invités, puisque au moment où nous enregistrons ce podcast, nous sommes en janvier, nous allons leur demander leurs souhaits pour cette nouvelle année au niveau du handicap, une année qui s'annonce passionnante. C'est déjà l'heure de la dernière partie de cet épisode de Handy Up et nous allons donc évoquer les vœux de Swazik Le Lièvre et Elina Bézir qui nous accompagnent ce soir à propos du handicap en 2023. Mesdames, si je vous donnais là maintenant, à 17h59, une baguette magique pour changer quelque chose pour la vie des personnes en situation de handicap dans notre société, vous feriez quoi? Je commence par toi, Elina.
Eh bien, moi, je pense qu'il faudrait mettre les moyens en place pour, justement, dans les systèmes scolaires, les milieux scolaires, faire en sorte d'avoir une éducation au handicap, tout handicap confondu, hein, parce que je ne parle pas que pour moi, je pense. Et je trouve que ce serait très intéressant que, dès le plus jeune âge, les gens aient cette ouverture d'esprit. Sur le handicap, grâce au milieu scolaire.
C'est clair, c'est une des priorités. Former, sensibiliser, alerter, faire comprendre à la jeunesse du pays, sans être trop politique, à faire comprendre à toutes les couches de la population que il faut, pour bâtir une société heureuse, il faut bâtir une société inclusive. Et donc ça commence le plus tôt possible. Swazik, à ton tour.
Alors moi, mes voeux, ce serait que dès le plus jeune âge, les enfants en situation de handicap aient accès à la scolarité, ne soient pas stigmatisés. J'aimerais que les personnes qui sont en situation de handicap et qui vivent seules, ne subissent pas l'isolement, justement, qu'il y ait des liens sociaux qui se créent, qu'on leur donne les moyens de sortir, qu'on leur donne les moyens d'avoir une vie digne, comme tout citoyen qui se respecte.
Merci de le dire parce que c'est vrai que c'est très important et c'est pas forcément encore le cas aujourd'hui, malheureusement. Voilà.
Oui, bah c'est sûr qu'il y a un énorme chantier qui n'est pas pris à bras le corps par rapport à l'école. On enregistre ce podcast au lycée Les Bourdonnières, qui est un lycée pilote dans le handicap et qui permet aux élèves en situation de handicap justement de vivre une scolarité classique avec les autres, au milieu des autres et en poursuivant des soins et la rééducation en parallèle sans que ça empiète sur leur scolarité, mais malheureusement, c'est un modèle qui n'est pas employé partout, alors que dans un modèle de société inclusive, ça devrait être le cas, au moins à l'échelle des régions, mais malheureusement, ça dépend de d'autres facteurs qui sont le plus souvent des facteurs financiers, mais ça fait que, par exemple, des élèves qui viennent de très très loin et de d'autres régions doivent se déplacer jusqu'ici. Et quand on voit également en parallèle ce qui a pu se passer avec l'enfant en situation de trouble autistique Olivier, là,
Oui.
l'affaire médiatisée dernièrement qui en fait l'a écarté
De
de
la
son temps
cantine.
périscolaire de la cantine, c'est quand même dramatique dans le sens où, et je la salue d'ailleurs puisque je pense qu'elle nous écoute, j'ai une maman d'amie qui a une fille en situation de trouble autistique également et qui a vécu exactement la même chose il y a 10 ans, en 2012, alors que sa fille était en CM2, et c'est vrai que c'est assez terrible d'en être encore là aujourd'hui, avec d'autres histoires, d'autres parcours de vie qui vont être marqués par ça.
J'en profite pour dire au passage que pour ma part, j'ai vécu une histoire similaire au collège dans le sens où je me sentais stigmatisée et j'étais exclue de tout ce qui était sortie scolaire, donc je pouvais pas participer et je ne trouve pas ça normal, donc je le dis là aujourd'hui
Bien sûr.
parce que c'est pas normal.
Mais oui, c'est pas normal. Enfin, moi, ça me révolte.
Et
Là,
alors,
c'est la maman
bien
qui,
sûr.
en tant que maman, je trouve ça horrible qu'on, même que le milieu scolaire, il tolère ça. Enfin, c'est pas possible. C'est tout le monde ou personne. Mais c'est pas, on ne laisse pas des enfants de côté parce qu'ils ont une différence physique ou, enfin, c'est pas possible
En
ça.
tous les cas, jusqu'à preuve du contraire, c'est contraire à nos principes.
Oui, bah
Mais
oui.
il semblerait qu'il y ait exception à la règle. Mais quand Elina parle de ses voyages scolaires qu'elle n'a pas pu faire, ses temps périscolaires ratés, en fait, ça ne fait qu'une chose, au-delà d'exclure sur le moment, ça exclut sur le long terme après. Et c'est ça qui est le plus dur. C'est-à-dire que quand vous expulsez quelqu'un une fois d'un endroit, il n'y remettra pas les pieds avec la même détermination qu'il les a mis la première fois. Donc ça. Oui, bien sûr.
Si je peux me permettre, je fais partie d'une association qui
Oui.
s'appelle Comme les autres et qui, en fait, qui propose à des personnes qui ont eu des accidents de la vie de rebondir à travers le sport, à travers, des activités, des liens sociaux. Et c'est du sport extrême. Et en fait, ça nous montre qu'on est capable de faire plein de choses malgré l'handicap et qu'on n'est pas, on n'est pas amené à ne à rester chez soi, à ne plus travailler, à ne plus avoir de vie sociale, de plus aller au restaurant, de plus aller dans les bars, de plus aller danser. Eh ben si, on peut danser, on peut faire du théâtre, on peut faire plein de choses, on peut faire du jet ski, on peut. Il y a plein de choses qui sont adaptées aujourd'hui pour les personnes en situation de handicap. Et ce serait bien que justement ça se développe de plus en plus.
Bien sûr, et c'est ce genre d'associations qui le permettent, parce que
Oui.
c'est la volonté citoyenne aussi, le fait que les personnes se bougent collectivement pour faire avancer les choses qui le fait, mais malheureusement, il n'y a pas nécessairement d'autres moyens que cela. Alors après, c'est le cas aussi dans d'autres domaines, et finalement, c'est bien, l'associatif, heureusement qu'il existe.
Oui.
Et petite question, c'est l'association de Michael Jeremias?
Oui, tout à fait.
Bah, si Michael Jeremias veut venir dans Handy Up, c'est quand il veut.
Eh ben, je vais lui passer le message, hein, parce que je
Parce que
suis bénéficiaire et bénévole de l'association.
ce serait un grand honneur pour moi, j'ai toujours
C'est vrai?
rêvé de lui parler, de le rencontrer, donc.
C'est un grand monsieur.
Ah oui, bah oui, ça on s'en doute évidemment. Deuxième question de cette dernière partie, plus personnellement maintenant, chacune votre tour, un objectif ou plusieurs, on va être généreux, pour les 12 prochains mois, il peut avoir un rapport avec le handicap ou pas. C'est quoi vos objectifs de l'année? Lina?
Moi, c'est toujours le même à chaque fois que je me lève le matin, c'est rester optimiste et me donner à fond dans tout ce que j'entreprends dans la vie.
L'énergie, toujours à 200%, très important.
Phrase super. Bateau.
Non, c'est chouette, mais écoute, c'est chouette. Et moi, c'est faire connaître le milieu du handicap à travers des journées de sensibilisation, justement dans les écoles, dans les entreprises, ce que je commence à faire là depuis quelques temps, avec l'association comme les autres. Apporter mon témoignage et puis surtout donner de l'espoir aux personnes qui sont touchées comme moi dans la vie par un handicap. On sait pas ce que la vie nous réserve et de se dire qu'il y a encore plein de belles choses de possibles et qu'il faut se raccrocher à la vie parce qu'elle est belle malgré tout ça et que voilà, de faire connaître toutes les associations, tous les lieux qui existent, de pouvoir permettre aux gens vraiment de s'épanouir comme moi je m'épanouis aujourd'hui.
Et même si c'est pas toujours facile, on l'aura bien compris en écoutant ce podcast, je pense pour nos auditeurs, comme dirait l'autre, ça vaut la peine d'être vécu.
Tout
donc,
à fait.
Il faut prendre ça avec le sourire dans la mesure du possible. Je rebondis sur ce que tu as dit, tu as parlé de sensibilisation en entreprise, je pense que ça intéresse plus d'un de nos auditeurs. Quel bilan tu tires de ces premiers moments de sensibilisation en entreprise?
Alors un bilan très positif, parce que du coup dans notre asso là, comme les autres, on est handicapés et valides. En fait on allie les deux, ce sont pas des aidants, hein, c'est des personnes qui vivent comme nous des activités. Et en faisant ces journées de sensibilisation, eh ben en fait, on a des personnes valides qui aujourd'hui sont inscrites à l'asso et qui ont envie de partager des moments avec nous.
C'est
génial parce qu'il y en a plein qui découvrent l'handicap à travers nos témoignages. On a des personnes qui sont très touchées, des personnes qui avouent que ça leur faisait peur. En fait, ils avaient peur, ils savaient pas comment aborder une personne en situation de handicap. Est-ce que c'est maladroit de demander de l'aide, de proposer son aide? Et en fait, c'est à nous aussi de montrer qu'on est ouvert, qu'on peut discuter avec tous, on n'est pas dans un cadre fermé.
On parle souvent de premier pas, mais en fait, c'est la volonté collective. Hein,
oui, voilà, c'est ça. Faut qu'on le fasse nous aussi, en fait. Mais ne pas hésiter à venir. Et puis, nous, on répondra gentiment, parce que c'est comme ça qu'il faut le faire, si on a envie ou pas d'aide à un moment de notre vie.
C'est à chacun de faire les efforts nécessaires pour faire le fameux vivre ensemble.
Voilà.
Merci pour cette troisième partie. On va conclure cet épisode d'Andy Up avec Elina et Swazik. Je vais vous demander, comme je l'avais demandé à Florian Bélier pour ceux qui avaient suivi le premier épisode, de nous suggérer une personne à inviter dans un prochain épisode du podcast pour parler du handicap, ou alors si vous n'avez pas d'idée de personne particulière à venir à notre table, et bien plus généralement une thématique ou un domaine que vous aimeriez dont vous aimeriez entendre parler ici même. Elina ?
Peut-être serait-il intéressant de proposer à des élèves qui ne sont pas en situation de handicap de venir s'exprimer aussi ici pour pouvoir donner aussi leur point de vue sur le handicap. Parce que je me dis que eux n'y connaissent peut-être pas grand-chose. Enfin, je dis ça grossièrement, de manière caricaturale, mais ça peut permettre aussi de voir globalement ce qu'en pense quelqu'un de valide sur le sujet du handicap.
Oui, c'est une très bonne suggestion et je pense qu'en fait ça rejoint aussi la ligne éditoriale de ce podcast, c'est-à-dire qu'on casse les clichés, on va plus loin, on s'entretient, mais c'est méthodiquement, entre guillemets, l'idée c'est on élargit le plus possible pour que ce podcast ce soit un podcast grand public et donc tout le monde peut avoir la parole sur des sujets divers mais qui ont un lien avec le handicap, et tout le monde doit avoir la parole pour que on fasse justement à notre échelle modestement avancer les choses. Swazik, une suggestion?
Alors moi je pense à une personne, il s'appelle Jean-Christophe Marquesto.
Ok.
C'est un monsieur d'une cinquantaine d'années qui va partir faire 7500 km en vélo à bras. Il est paraplégique. À travers l'Europe, Il part le 1er avril 2023. Et en fait, au-delà de l'aventure humaine et de la
Le défi
performance
sportif.
physique, c'est montrer en fait que tout est possible de rencontrer des personnes en situation de handicap dans d'autres pays et de montrer qu'on peut faire plein de choses malgré le handicap. Il fait de la boxe, enfin, c'est un homme multitâche qui, je pense, mériterait vraiment d'être connu et.
Excellente suggestion et on a hâte de l'avoir dans le podcast un jour ou l'autre. Et petite parenthèse, le vélo à bras, pour ceux qui
Le handbike.
ne connaissent pas le handbike, comme on dit outre-Manche, allez voir sur internet, c'est assez phénoménal. Merci pour ces suggestions, c'est très complet et ça va venir enrichir les prochains mois, les prochaines semaines pour Handy Up. Merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode. Donc de Handy Up, c'était un grand plaisir de pouvoir échanger avec Swazik et Elina. Échange qui, je l'espère, aura été très enrichissant pour vous aussi, les auditeurs et les auditrices. Merci à Laura et à Samuel, sans qui une nouvelle fois ce que vous venez d'entendre n'aurait pas pu voir le jour. On se retrouve bientôt pour casser les clichés autour du handicap. Mais en attendant, parce que c'est le plus important, et parce que je leur ai dit, vous venez à l'aise, vous mettez les pieds sous la table, je laisse mes invités conclure ce podcast avec un dernier mot.
Alors les pieds sous la table, c'est quand même assez drôle. Ben moi je voulais vous remercier Hugo et Elina, c'était super sympa, un moment vraiment que j'ai apprécié, je regrette pas d'être venue.
Eh bien, je vous remercie également parce que j'ai trouvé ça très utile de pouvoir s'exprimer. Donc, merci beaucoup à vous deux.
Merci à tous, à bientôt.